Tiffaine Samoyau, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour votre nouveau livre « Toutes sortes de misérables ». Tiffaine Samoyau, vous êtes directrice d'études à l'EHESS, vous êtes spécialiste de littérature et vous avez beaucoup travaillé, entre autres, la question de la traduction dans votre dernier livre en 2020, « Traduction et violence ». Vous êtes aussi l'autrice d'une biographie très remarquée sur Barthes il y a une dizaine d'années, je crois, en 2015. Et vous revenez aujourd'hui avec ce livre de longue élaboration, on en reparlera, sur la question à la fois qui est traversée par plusieurs questions, la question du statut des classiques, la question de la réécriture des classiques, la question de la durée de l'œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire aux œuvres et qu'est-ce que les œuvres nous font. Et pour ça, vous commencez par une œuvre qui vous est importante dans votre propre parcours de lectrice, et qui est importante aussi parce que c'est une œuvre qui a connu un nombre de mutations presque infinies, que sont Les Misérables de Victor Hugo. Alors justement, peut-être pourquoi il vous a semblé que pour aborder cette question de la pérennité des œuvres, Les Misérables était un exemple opportun.
Alors, avant de répondre à cette question, si vous le permettez, je voudrais remercier la librairie Mola de cette invitation et puis également le public. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir pour entendre ce que j'ai à dire, non pas simplement sur Les Misérables, mais en effet sur ce sujet de la réécriture qui a été mon objet d'interrogation et d'étude. On va avoir l'occasion d'y revenir dans le cadre d'un certain nombre de débats un peu passionnés sur ces questions. J'ai voulu mettre à profit ma réflexion sur la littérature qui provient d'une passion de lectrice d'abord, mais aussi une expérience d'enseignante de la littérature et qui m'a donné l'envie et je dirais aussi peut-être, on y reviendra peut-être, le courage d'écrire sur ce sujet. Alors pourquoi Les Misérables ? J'ai voulu partir de mon expérience. M'a fait aimer la littérature à partir de versions abrégées des textes hein, ou réécrites des textes. Hein, mais comme beaucoup d'entre nous hein, qui a lu Les Aventures d'Ulysse dans l'intégralité du texte d'Homère, même en traduction, à l'âge de 5 ans. Et parmi ces expériences qui m'ont fait aimer la littérature, il y a eu un texte qui a été extrêmement marquant, qui a peut-être été déterminant, qui est un volume intitulé « Cosette » de Victor Hugo. Or, ce « Cosette » de Victor Hugo, j'ai cherché à le retrouver, cet exemplaire que j'avais lu enfant. Et donc, pour cela, je suis allée à la Bibliothèque nationale de France. Je l'ai cherché, hein, sachant que la Bibliothèque nationale de France, rassemblant tous les textes publiés en français depuis François Ier, et bien que je retrouverai ce volume, je ne l'ai pas retrouvé sans difficulté. Pourquoi ? Parce que, comme je le raconte dans le livre, en fait, j'ai trouvé 60 versions différentes d'un texte que Victor Hugo n'avait jamais écrit, intitulé « Cosette ». Et donc, avec les dates, les recoupements, et surtout, la reconnaissance immédiate que j'ai eue de l'illustration de couverture, j'ai pu retrouver cette édition avec une certaine émotion, je dois dire. Et c'est ce volume, évidemment, ce volume qui a été très marquant, qui m'a donné envie de continuer à lire. Je lisais aussi, évidemment, d'autres livres, des livres écrits spécialement pour les enfants, mais aussi des éditions abrégées des classiques de la littérature française et étrangère. Hein. J'ai lu Dickens comme ça, j'ai lu Dumas comme ça, enfin, j'ai lu beaucoup d'auteurs comme ça, en fait. Et ensuite, j'ai été conduite, hein, grâce à ces éditions, aux éditions complètes hein, que j'ai lues beaucoup plus tard. Et je raconte donc, j'amorce le livre de cette façon, mes différentes lectures, mes trois lectures des Misérables, puisque je ne considère pas que la première n'est pas une lecture des Misérables. Hein, et donc, j'ai aussi voulu comprendre hein, comment nous pouvions avoir en commun une référence littéraire qui crée précisément du commun entre beaucoup de personnes, et pas simplement en France, aussi à travers le monde. Et on y reviendra peut-être, mais je m'intéresse aussi aux traductions dans les langues étrangères, vers les langues étrangères, alors que le texte nous était arrivé par des biais souvent extrêmement différents. Donc moi, ça a été une édition abrégée, mais il y a d'autres personnes, ça va être un film, une série, une comédie musicale, hein, la comédie musicale ayant considérablement augmenté le nombre de personnes connaissant à travers le monde Les Misérables, hein, puisque à ce jour, 200 millions de personnes ont vu cette comédie musicale dans le monde, hein, c'est quand même un chiffre assez remarquable, et ce nombre ne fait évidemment que s'étendre. Donc je suis partie de là. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une référence en commun qui nous est arrivée par quantité de biais différents, et voilà, d'examiner cette à la fois cette identité, hein, et cette différence.
Oui, parce qu'en fait, ce que vous dites par là, c'est que ces différents moyens par lesquels la chose devient commune pose la question de dire qu'est-ce qui est commun dans ce qui est commun, c'est-à-dire que quelle œuvre est commune, puisque l'œuvre commune, c'est pas les 1500 pages lues par chacun en français du texte, on va dire original, si cette expression a du sens, de Victor Hugo, c'est quelque chose fait à partir de l'œuvre de Victor Hugo et qui c'est cette chose-là qui devient commun. Et ça, c'est ce qui est passionnant dans votre travail, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est commun dans ce commun.
C'est ça. Alors parfois, lorsque je suis face à un groupe d'étudiantes et étudiants qui viennent souvent de partout, de beaucoup de pays du monde. Je cherche à savoir, hein, à savoir qu'est-ce qu'on a comme référence commune. Et si on prend des grands textes qui font partie de ce qu'on appelle le patrimoine mondial de l'humanité, donc que ce soit Homère ou Shakespeare. Donc si on prend par exemple, je donne l'exemple d'Hamlet, bon, mettons que la moitié de la classe l'ait lu. Je leur demande en quelle langue l'avez-vous lu. Et très souvent, on arrive sur un groupe d'une trentaine de personnes, on arrive à 15 ou 17 langues différentes. Et je pose la question, est-ce que nous avons lu le même texte, hein, ou est-ce que nous n'avons pas lu le même texte? Et la vérité, c'est que le oui et le non sont vrais. C'est-à-dire que oui, on a lu le même texte, et non, on n'a pas lu le même texte. Les deux énoncés sont vrais en même temps, et c'est cette double vérité qui est compliquée, en fait, qu'on essaye de prendre en charge, et ce que je fais à une échelle encore bien plus vaste concernant Les Misérables, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on a en commun ? On a des situations, on a des personnages, surtout, on a des émotions, on a de l'histoire aussi, malgré tout. Pas simplement une histoire, hein, au sens d'un récit, mais de l'histoire. C'est un texte qui est ancré dans une histoire sociale et politique qui est celle de la France du 19e siècle, qu'on appelle aussi le siècle des révolutions, et qui est très importante aussi à l'étranger. Hein. Et là, en suivant les trajectoires des Misérables au 20e siècle, dans certains pays comme l'URSS et la Chine, on s'aperçoit à quel point cette histoire est marquante et partagée.
Alors ça, justement, c'est passionnant. Vous évoquez la Chine. Donc vous remontez pour essayer de comprendre l'importance de ce texte en Chine. Et là, en remontant l'histoire, vous vous rendez compte que, globalement, la version chinoise du texte qui a circulé, c'est une version chinoise venant du japonais, venant de l'anglais, et elle-même, évidemment, traduite du français. Donc, et ça, c'est assez typique. D'abord, c'est typique des parcours des traductions, peut-être au 19e et au début du 20e. Ça serait peut-être moins vrai aujourd'hui, mais
trompez-vous.
D'accord, mais je sais que pendant très longtemps, effectivement, il y a des auteurs japonais qui ne voulaient être traduits en langue occidentale que depuis l'anglais, par exemple. Ils considéraient qu'il fallait qu'il y ait une sorte de plateforme commune pour la langue occidentale. Mais là encore, est-ce que ça veut dire qu'entre le texte et l'œuvre, il y a un écart finalement?
Alors, j'ai eu la chance pour travailler sur ce sujet d'accompagner un doctorant chinois parlant extrêmement bien le français, Wu Tianshu, de l'université de Dongjin, qui a voulu faire sa thèse et qui m'a demandé pour cela de l'accompagner sur Victor Hugo en Chine. Et donc, pendant 4 années, il a travaillé sur ce sujet, Victor Hugo, en Chine. Donc, et j'ai beaucoup appris à cette occasion. Et son livre a été publié, hein, je le cite évidemment dans mon ouvrage. En travaillant avec lui sur ce sujet, on s'est rendu compte de choses absolument fascinantes. Qu'effectivement, quand Hugo arrive en Chine, c'est d'abord par le biais du japonais. Comme vous le savez peut-être, le Japon s'était ouvert à l'Occident avant la Corée et la Chine, et avait déjà traduit énormément de textes de littérature occidentale. Et c'est à partir de cette bibliothèque de traduction formée au Japon à partir du début de l'ère Meiji que les Chinois et les Coréens vont à leur tour importer cette littérature, mais en passant par le japonais. Mais il faut savoir aussi ce qui a été découvert par Wu Tianchu, c'est que certains des textes japonais avaient été traduits du français depuis l'anglais. Donc vous imaginez, on a tant de relais. Hein, et donc vous pouvez bien imaginer que le texte s'en trouve considérablement transformé, hein, parce que tous ces relais conduisent à des modifications presque mécaniques, hein, presque mécaniques du texte. Donc, et alors, ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que, comme vous l'avez suggéré, on pourrait penser que c'est un peu progressif, que au début, quand il y a peu de relations entre les pays, on est obligé de passer par des relais parce qu'il n'y a pas assez de traductrices et de traducteurs dans le pays même. C'est ce qui se passe quand il n'y a pas beaucoup de relations entre les pays, il n'y a pas beaucoup de traducteurs. Plus les relations sont denses, intenses, en fait, plus il y a de traducteurs. Mais ce n'est pas tout à fait une histoire progressive parce que quand on a besoin de traduire très très vite un auteur, eh bien, on peut avoir recours à des traductions relais et ça se passe encore aujourd'hui. Ça se passe encore aujourd'hui, par exemple, lorsque le prix Nobel a été accordé à Gao Xingjiang, c'était le premier auteur chinois qui avait le prix Nobel. Je crois que c'est en 1990.
De 2000.
2000.
La vingtaine de l'âme.
C'est ça, 2000. Et donc, en 2000, il a le prix Nobel. Alors, il avait vécu en France, il avait des textes traduits en français, mais aucun texte traduit en espagnol, par exemple, ou en italien. Et il a été traduit très vite, parce que le prix Nobel crée une sorte de notoriété, de besoin sur le marché. Il a été très, très vite traduit dans ces langues, espagnol et italien, depuis le français. Donc, voilà, c'est quelque chose qui existe encore. Une fois, je faisais une petite enquête sur un livre dont j'avais vu qu'il était traduit du kurde. Alors, je trouvais ça singulier, parce que c'est rare qu'on ait en français des livres traduits du kurde, et puis je sais aussi qu'il y a plusieurs langues kurdes. Alors, j'ai commencé un petit peu à enquêter sur ce livre. Ça, c'est très, très récent, hein. Ça date de quelques années. Et j'ai découvert qu'en réalité, ce texte avait été traduit oralement d'un des Kurdes, le Kurnanji, vers l'anglais, et ensuite traduit depuis cette oralisation en anglais en français. Et c'était absolument pas écrit sur la couverture du livre. Parce que très souvent, la traduction relais, elle est cachée. Donc elle est très très difficile à débusquer lorsqu'on fait des enquêtes un peu scientifiques sur ces sujets. Tout ça pour vous dire que... alors, ce qui est amusant aussi avec l'exemple de Hugo en Chine, et je pense que ça vaut le coup de le raconter, c'est que ce n'est pas non plus un processus continu. C'est-à-dire qu'à partir du début des années 10-20 du XXe siècle, certaines traductions commencent à se faire directement depuis le français. Mais à partir de 1949... les traductions ne se font plus ni depuis le japonais, ni depuis l'anglais, ni depuis le français, mais vous pourrez très bien imaginer depuis quelle langue, hein, depuis le russe. Et on a un certain nombre de textes de Victor Hugo qui sont traduits en chinois depuis le russe. Et il se passe des choses absolument extraordinaires. Bon, je ne vais pas raconter tout ce qui est dans le livre, mais il se passe des anecdotes incroyables, des fausses attributions.
Oui, parce qu'il y a quand même pas juste simplement l'histoire des pauvres gens qui effectivement.
L'histoire des pauvres gens, bon, c'est un poème de Victor Hugo qui s'intitule Les pauvres gens, mais évidemment en traduction, Les misérables, Les pauvres gens, ça devient la même chose. Vous imaginez bien qu'on peut trouver le même mot dans une langue étrangère pour traduire Les pauvres gens et Les misérables. Donc déjà, ça passe pour un texte des misérables du roman. Et il est présent dans les livres scolaires en Chine jusque dans les années 80 sous le nom d'auteur de Tolstoï, qui en fait était son traducteur. Donc il y a des histoires qui sont tout à fait fascinantes, mais qui marquent aussi l'influence des conditions géopolitiques, mondiales sur la circulation de ses œuvres et aussi leur transformation, hein, je dirais.
Et qui vient poser aussi une question centrale au cœur de votre livre, qui court sur tout le livre et qui aussi lié à la théorie de la traduction, qui est l'horizon de la traduction. C'est-à-dire que vous dites en gros, pour simplifier, il y a deux visions, on va dire la vision euphorique et la vision nostalgique. C'est-à-dire d'un côté, on considère que la traduction peut être jusqu'une œuvre en soi qui discute entre les différentes versions du texte. Et il y a ceux qui considèrent que toute traduction est déjà une perte et que de toute façon, le texte ne vaut que lu en original et qu'on essaie de faire le moins pire possible. Mais quand même, la traduction n'est jamais véritablement suffisante. Et ce que vous montrez par les exemples que vous donnez là, c'est que on peut considérer jusqu'à un certain point que ce qui prime, c'est quand même la circulation du texte et que l'idée en permanence de la perte de l'original, il a plutôt tendance à figer les choses qu'à permettre la circulation du texte.
Alors, je tends vers ça, je tends vers cette idée, mais d'abord, je m'intéresse à des faits, en fait. Je m'intéresse à ce qui se passe. Effectivement, la traduction relais, c'est pas forcément une bonne chose, hein, parce que ça crée des transformations, des déformations qui éloignent quand même considérablement le texte. Je ne vais pas dire que je préfère une traduction infidèle à une traduction fidèle. C'est pas mon propos. Ce serait sans doute assez contre-productif en fait de poser cela. Ce qui m'intéresse, c'est que quand on se penche de manière très précise, je dirais presque scientifique, un peu philologique ou historique, sur la circulation des œuvres, on s'aperçoit que ces phénomènes de déformation, transformation, appropriation, etc., sont infiniment plus nombreux que la circulation à l'identique, qui n'existe pas, mais plus ou moins à l'identique des textes. Et donc, à partir du moment où, factuellement, la vérité de la circulation des œuvres, c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait, hein, qu'est-ce qu'on en fait, on doit accepter que la vie des œuvres implique leur changement. Et à partir du moment où on accepte cela, parce que factuellement, ça a toujours existé, hein, parce que après je remonte dans une histoire encore plus ancienne que celle des Misérables, mais déjà la relativement longue durée des Misérables, puisqu'on peut suivre les vicissitudes et les transformations du texte sur un siècle et demi, enfin largement, hein, un siècle et demi, puisque le texte, sa première publication est 1862, et dès 1862, il y a des traductions en langue étrangère. Hein. Et ces traductions en langue étrangère, elles sont beaucoup, beaucoup plus transformées qu'aujourd'hui, les traductions ne transforment les textes. Je cite notamment la préface de l'éditeur russe de la première édition des Misérables. Je vais vous lire le petit extrait que je présente dans le livre, parce que c'est assez comique. Donc il y a déjà plusieurs traductions différentes du texte de Hugo, mais non seulement traduit de manière un peu déformée, mais en plus abrégée. Donc les deux choses vont en même temps. C'est pas forcément à destination des enfants, c'est à destination de tout le monde. Mais non seulement on abrège, on traduit en abrégeant. Alors voilà ce que dit un des éditeurs. Je le cite en traduction. La première partie du roman, donc là, il parle de Hugo, sortie en deux tomes, traîne bien trop en longueur. En publier une traduction intégrale aurait signifié éreinter en vain le lecteur et gâcher du papier. C'est quand même étonnant, en 1862, qu'il ait déjà cette préoccupation écologique. C'est pourquoi nous publions cette première partie en version abrégée. Nous vous garantissons que cette méthode certes peu respectueuse du grand artiste, était la seule façon de rendre supportable la lecture de cette partie. Donc, voyez la liberté que prend cet éditeur russe de 1862 pour faire connaître Les Misérables à son public. Et bon, on sait très bien, si on s'intéresse, je ne le fais pas dans le livre, mais d'autres l'ont fait, aux circulations de Proust dans les langues étrangères, qu'on a exactement le même genre de réflexion. C'est bien trop long, on vous épargne les digressions et autres inutilités.
Ce qui est intéressant dans cette préface, c'est que, alors, on viendra à la fin sur les, on va dire, les critères entre guillemets idéologiques de réécriture, mais c'est que là, l'argument employé par l'éditeur, c'est un argument qui est très important parce qu'il revient souvent, c'est celui de la lisibilité finalement.
Oui.
C'est de dire en fait, et parce que c'est le même, c'est l'autre raison, par exemple, pour les enfants, c'est aussi ce qu'on dit, on va changer un temps verbal par exemple, parce que c'est plus lisible au passé composé qu'au passé simple. Là, on va couper des morceaux de la première partie parce que sinon on va s'ennuyer. Et cet argument, la lisibilité, c'est l'argument, et lui, il est très ancien aussi.
Cet argument, la lisibilité, est très ancien, hein, vous pouvez le constater ici. Il est lui-même idéologique, c'est-à-dire il correspond à ce que une époque et un lieu, une culture, etc., considèrent comme lisible. Et il va de pair avec la conception de l'ennui, hein, c'est-à-dire que la longueur, ce serait ennuyeux. Et donc plus le texte est condensé, ramassé, abrégé, moins il serait ennuyeux. Alors quand voilà, c'est un critère qui est sujet à caution, bien entendu. Mais cette lisibilité, souvent, elle passe par les mêmes coupes. Très souvent, ce qui est coupé, ce sont les digressions. Alors que dans Les Misérables, elles sont assez déterminantes pour l'esprit, la sensibilité et la puissance de l'histoire. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les éditions abrégées pour enfants. Donc, je n'ai pas consulté les 61 Cosettes, mais enfin, j'en ai quand même comparé une quinzaine de versions. Et on remet l'histoire dans l'ordre. C'est-à-dire que ça, on suppose qu'il y a un ordre, alors que cet ordre, il est aussi culturel. Hein. Et on suppose qu'il y a un ordre de la narration, un ordre chronologique, qui serait le seul ordre logique possible. Alors qu'on sait bien qu'on peut très bien soumettre des enfants à des logiques tout à fait autres que chronologiques. Hein. Ils s'y font très bien. Hein. Il suffit de lire un conte fantastique ou merveilleux pour être dans des logiques autres que cet ordre-là. Mais presque toutes ces éditions abrégées, qu'elles soient en traduction ou des éditions abrégées pédagogiques ou pour enfants, rétablissent un ordre chronologique aux événements.
Bien. Alors justement, je veux qu'on s'arrête sur deux cas que vous étudiez longuement dans le livre, qui sont très importants à des titres différents, qui sont Montaigne et Shakespeare, parce que les deux posent deux problèmes distincts. Dans le cas de Montaigne, vous l'abordez dans un chapitre qui s'appelle « L'usure des œuvres », puisque là, on est encore sur une autre question, c'est-à-dire que Montaigne écrit en français, d'ailleurs, écrit-il, on l'évoquera. C'est aussi la question, évidemment, de l'oralité derrière l'écrit qui est très importante. Mais dans un français qui tend à devenir difficile à lire pour le commun des lecteurs français, donc qui pose la question de l'adaptation. Évidemment, question ne se pose pas les gens qui traduisent aujourd'hui, par exemple, Montaigne en anglais, qui vont le traduire dans l'anglais du 21e siècle, et non pas dans un anglais du 16e. Donc voilà, ça montre aussi que la question de la réécriture, elle apparaît très tôt, mais là, en l'occurrence, elle apparaît aussi dans des cas où est-ce qu'il faut considérer que Montaigne doit être lu que par les 5 personnes qui, d'ici 50 ou 100 ans, parviendront à lire cette langue, ou au contraire, il faut la faire circuler en faisant un travail, pas forcément de traduction, mais qui peut être appelé d'adaptation, comme le dit Bernard Combeau, qui a fait l'adaptation pour les éditions Bouquin Mola.
Alors, dans un sens, plus les textes s'éloignent, plus leur langue aussi s'éloigne, et plus la traduction s'avère nécessaire, hein, se révèle nécessaire. On admet tout à fait que l'on traduit des textes du Moyen-Âge, on ne lit pas
Chrétien de Troyes
ou Tristan Iseut sans une traduction, enfin, à part les quelques spécialistes de langue médiévale Et effectivement, par rapport à il y a 100 ans, on va dire que la langue de Montaigne, elle s'est éloignée et qu'aujourd'hui, lire Montaigne pour des scolaires, mais je dirais même pour notre plaisir à nous, l'adaptation en français modernisé je dirais pas forcément nécessaire, mais utile et plaisante. Alors, en m'intéressant à ce cas, alors vous dites, on ne va pas traduire Shakespeare en français du XVIe siècle. C'est quand même des débats. Au sein de la traduction. Vous avez des traductions récentes de Dante qui sont dans un français tout à fait modernisé, hein, comme celle de Jacqueline Risset ou d'autres. Et puis, vous avez des traducteurs ou des traductrices qui vont essayer de se rapprocher d'un français qui pourrait correspondre, c'est le cas de Pézard dans la Pléiade, qui pourrait correspondre à un certain état du français à l'époque de Dante. Et donc, rendant la traduction beaucoup plus lointaine, beaucoup plus mystérieuse, dans un sens moins accessible, mais avec aussi un certain charme. Hein, mais ce sont des choix, c'est un peu une fiction. Hein, c'est une fiction de reconstitution d'un français qu'on ne parle plus et qui donc n'a pas d'ancrage, hein, ni dans un espace, ni dans un temps. Donc ça a un certain charme, mais aussi de la fiction. Mais je dirais que, effectivement, dans la traduction, la plupart du temps, on actualise les textes anciens, hein, et que c'est une des fonctions de la traduction que d'actualiser ces textes. Et quand on a à disposition plusieurs traductions, parfois ça peut s'élever jusqu'à plusieurs centaines, hein, dans le cas par exemple des traductions de textes antiques, on dispose sur 5 siècles ou 6 siècles de plusieurs centaines de traductions de ces textes, et quand on compare ces traductions, c'est là qu'on se rend compte que la traduction, c'est un laboratoire du changement des textes, hein, puisque parfois, entre certaines versions, je l'ai travaillé avec des étudiants il n'y a pas longtemps sur les sirènes, l'épisode des sirènes dans l'Odyssée d'Homère. On a des traductions tellement distinctes qu'on ne peut pas imaginer que l'original de base est le même. Et d'ailleurs, il n'est pas toujours le même. On pourra y revenir. Mais pour rester sur Montaigne, en travaillant le sujet, je me suis rendu compte que l'œuvre de Montaigne prévoyait cette actualisation, parce que Montaigne a tout à fait conscience. Il fait partie des écrivains qui sont la première génération ou la deuxième génération à écrire en vernaculaire, hein, c'est-à-dire dans un français qui commence à s'institutionnaliser, mais qui n'est pas encore institutionnalisé. Donc ça n'est pas une langue figée, ça n'est pas une langue réglée, c'est une langue essentiellement orale que des expérimentateurs, hein, comme les poètes de la Pléiade, comme Montaigne, comme d'autres, comme Rabelais, ne cherchent pas à figer, mais cherchent à écrire, à inventer, à créer à l'intérieur de cette langue. Et ils créent d'autant plus facilement et d'autant plus librement que précisément cette langue est sans règles. Et toute l'œuvre de Montaigne porte cette idée que cette langue est vouée à mourir. Il le dit. C'est pas une langue, c'est pas comme le latin qui est une langue institution, etc. C'est une langue qui est vouée à disparaître dans le vent. Il le dit. Il a cette expression. Il dit, il envisage ça même pas à 100 ans. Il envisage ça à quelques dizaines d'années, que c'est une langue qui va disparaître. Et donc, il ne parie pas du tout sur la postérité de son texte. Il projette, en fait, cette nécessaire reprise, actualisation, lui-même reprenant des textes anciens. Et c'est un texte qui doit laisser complètement libre son lectorat et ses spécialistes de se le réapproprier, parce que c'est inscrit... c'est vraiment inscrit précisément, et je cite des phrases du texte qui sont très éloquentes à cet égard. Et ce qui est beau, et c'est ce à quoi ça m'a amené à réfléchir, hein, tout cela, c'est que toutes ces variations, que ce soit d'un texte dans une même langue, hein, par ces traductions lorsque cette langue est lointaine, mais aussi ces adaptations, ces coupes, ces réécritures, ces traductions, eh bien, nous rappelle l'origine orale de la littérature. Parce que si on y réfléchit bien, la littérature orale, c'est une littérature qui ne cesse de changer. Hein, puisque d'une conteuse à l'autre, d'un aède à l'autre, on va avoir une trame, parfois des motifs stylistiques, musicaux, rythmiques, qu'on va retrouver d'une version à l'autre. Mais chaque troubadour, chaque conteuse va apporter aussi sa... avec son corps, avec sa diction, avec aussi son contexte, hein, qui peut permettre parfois d'ajouter un personnage, de donner plus de pouvoir à l'une ou l'autre, eh bien, va apporter une variation. Et finalement, cette variation, cette variabilité de l'oralité, on la retrouve dans ce voyage des textes dans l'espace et dans le temps.
Oui, alors que paradoxalement, c'est ce que vous montrez aussi, il s'est produit justement pour la matière la plus orale que sont les contes, parfois une sorte de processus inverse, c'est-à-dire que la fixation par l'écriture, que ce soit par Perrault ou le Prince de Beaumont, a figé des versions dont on a considéré que c'était les vraies versions, alors qu'elles étaient simplement un état... composé de plusieurs autres versions et des fois de sens presque opposés, entre autres sur la question de la position des femmes, aux contes dont on sait qu'ils circulent, parce que par ailleurs, le travail des folkloristes, comme on les appelle plus, fait qu'on connaît les autres versions.
Oui, là c'est intéressant de s'en souvenir, même par rapport aux anticipations d'aujourd'hui sur certaines réécritures. Parce que les versions écrites des contes, on pourrait dire que sont des versions qui ont gagné en quelque sorte, hein, parce qu'elles se sont précisément figées dans un texte écrit qu'on a assez vite considéré comme un original, alors même que c'était la fixation d'une version parmi d'autres versions qui circulaient, qui existaient, qui se transmettaient. Et dans le cas des contes de Perrault, c'est une institutionnalisation, on ne peut pas le dire autrement, c'est l'histoire, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été montré par des spécialistes des contes, ça a été redit récemment par Jennifer Tamas dans un livre qui s'appelle « Au nom des femmes ». Et c'est une période au XVIIe siècle, et précisément la période d'institutionnalisation très forte de la langue française, hein, c'est le moment... où précisément on fixe des règles qui vont la stabiliser, cette langue, ce qui n'existait pas, je le redis, au temps de Montaigne. Et pour la stabiliser, on va aussi constituer un corpus de textes écrits qui vont permettre d'assurer la transmission de cette institution. Donc, écrire les contes, les publier, inscrire une version, c'est aussi participer d'une institutionnalisation de la langue et de la littérature, qui est une institutionnalisation politique, bien sûr. Or, peut-être vous vous en souvenez, mais ces contes, Perrault les adresse au fils du roi. Donc, on est dans l'éducation d'un jeune garçon appelé à de très hautes fonctions et dans un contexte très institutionnel politiquement. Or, au même moment, il y a beaucoup d'autres versions qui sont écrites, hein, et en particulier par des femmes qui ont été en partie oubliées, aujourd'hui réexhumées, mais en partie oubliées. Le Prince de Beaumont, elle n'est pas oubliée parce qu'elle a fixé La Belle et la Bête que Perrault n'a pas repris. Mais si Perrault avait repris La Belle et la Bête dans les contes de ma mère Loi, probablement que Le Prince de Beaumont aurait été également oublié. Or, les versions qui ont été fixées par des femmes sont des versions... qui donne beaucoup plus de pouvoir au personnage féminin que n'en donne Perrault. Mais c'est normal, il n'écrit pas dans le même contexte. Mais en fait, c'est quand même cette version-là qui a gagné. Pourquoi ? Parce qu'elle a été faite dans ce contexte-là. Mais ça n'est pas une version originale. Et aujourd'hui, quand on réécrit les contes, en fait, on ne dénature jamais un original, parce que cet original n'existe pas. C'est juste une version qui a été proposée et qui a... disons, plus gagné que les autres, hein, c'est-à-dire eu plus de légitimité et surtout de postérité.
Et l'autre cas très intéressant sur lequel vous travaillez, c'est le cas de Shakespeare, parce que alors là, ça, on va dire, ça va dans plusieurs directions très importantes qu'on va essayer de détailler. Est-ce que Shakespeare, puisque c'est une œuvre théâtrale, évidemment, c'est la question aussi de l'adaptation et de la mise en scène qui en soi, qui était paradoxalement un espace dans lequel on tolère, on supporte des choses qu'on fait mine de ne pas supporter pour du roman ou pour de la poésie, c'est-à-dire des modifications textuelles. Et puis Shakespeare, vous le montrez aussi, très tôt fait l'objet de versions alternatives, dont certaines deviennent des œuvres pour elles-mêmes presque, et puis d'autres en fait sont tombées dans l'oubli parce qu'elles relevaient plus justement de pas de la censure, mais on va dire d'une logique de diminution de l'efficacité du texte.
Alors oui, ce que nous montre l'histoire des textes et de la circulation des textes, à quoi je m'intéresse dans ce livre, en essayant d'en faire quand même une histoire vivante et pas trop étouffante, c'est que l'original, c'est une invention récente. Nous n'avons, il faut quand même se le rappeler, aucun original des textes antiques. On a vaguement des petits fragments avec un mot... dans le meilleur des cas, un petit bout de papyrus, il n'y a pas de fragments. Il n'y a pas de... Si, il y a des fragments, mais il n'y a pas d'originaux. On a reconstitué tous ces textes antiques par des copies. Or, les copies, c'est un peu comme les traductions. C'est une illusion de penser que les copies sont absolument des miroirs fidèles de la copie antérieure, etc., vers quoi on pourrait remonter à un original hypothétique. Les copies aussi, les spécialistes du Moyen-Âge l'ont montré, les copies transforment les textes. Les copistes ajoutent des éléments, rectifient des choses qui leur paraissent absurdes. Dès qu'il y a un changement de culture, un changement de référence, en réalité, le texte se modifie à mesure qu'il est copié. Avec Shakespeare, l'original aussi, c'est quelque chose de très très compliqué à identifier. C'est pourquoi d'ailleurs, vous avez dû en entendre parler, on dénie même à Shakespeare la paternité de ses pièces. Très régulièrement, à peu près tous les 10 ans, on nous annonce un nouveau auteur, un nouvel auteur des pièces de Shakespeare. C'est vraiment quelque chose comme une sorte de marronnier, on va dire. Et pourquoi est-ce qu'on récuse cette paternité? C'est aussi parce que les textes sont très instables. Pourquoi? Parce que l'écriture pour le théâtre, c'était une écriture en mouvement également. C'est-à-dire que bon, on était à, il y avait déjà de l'écriture manuscrite et les imprimés, mais le texte se modifiait à mesure qu'on le jouait. Et il y avait aussi une part de collectif dans l'écriture des pièces, puisque les acteurs pouvaient transformer leurs répliques. Et donc, à mesure que la pièce était jouée, elle prenait corps, en réalité. Elle prenait texte, elle prenait voix, elle prenait toute sa substance. Et on ne sacralisait pas du tout l'état, donc il y a eu des impressions quand même du vivant de Shakespeare de ces pièces, mais dont l'état pouvait varier si la pièce était reprise par le théâtre du Globe avec éventuellement d'autres acteurs, etc. Ce qui explique que pendant des siècles, on n'a pas du tout joué, on a joué des versions constamment remaniées des pièces de Shakespeare. À un moment, les spécialistes ont décidé qu'il y avait une version qu'on considérait comme originale des textes de Shakespeare. C'était le grand in-folio de telle date, j'ai oublié, je la donne dans le livre, mais j'ai oublié la date, et qui a été considéré comme constituant l'original. Mais on a commencé à jouer certaines de ces pièces originales seulement au milieu du 19e siècle en Angleterre. Avant, c'était des versions tout à fait différentes de ces pièces. Donc déjà, la connaissance que des personnes cultivées, on va dire, ou des personnes qui allaient au théâtre avaient de Shakespeare, c'est une connaissance déjà variable. Mais comme ce théâtre a connu une notoriété assez considérable, eh bien, il a été patrimonialisé. Et à partir du moment où il est patrimonialisé, il connaît des éditions à usage pédagogique, à usage moral, à usage familial, etc. Et donc, on a commencé à réécrire Shakespeare ou à proposer des versions plus morales, moins charnelles, plus simples aussi, très, très tôt, et en particulier au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Et ces versions sont à leur tour devenues patrimoniales. C'est le cas, par exemple, des réécritures des pièces de Shakespeare sous forme de contes par Charles and Mary Lamb, qui ont été faites au tout début du 19e siècle et qui ont connu des multiples rééditions jusqu'à aujourd'hui, à leur tour traduites dans d'autres langues. Et ces réécritures des textes, des pièces de Shakespeare, ont même été traduites de très nombreuses fois en français. Et j'ai trouvé, et je l'ai signalé parce que c'était au moment où je terminais le livre, une traduction récente de ces réécritures des pièces de Shakespeare. Donc, c'est frappant que même des versions vraiment transformées à destination des enfants, à leur tour deviennent des œuvres sujettes à la reprise, à la traduction, etc. C'est plus une œuvre, en fait, c'est la thèse que je développe dans le livre, qui est d'une certaine manière un peu évidente, mais qui est que on peut pas être pour ou contre la réécriture en réalité, puisque dès qu'on a un classique, il est réécrit. Il n'y a pas. Et alors ça, c'est vraiment la découverte que j'ai faite en écrivant le livre, et qui est une, comme quelquefois quand on fait des recherches comme ça un peu poussées, on prend beaucoup de temps, et puis à la fin, qu'est-ce qu'on a ? On a une évidence. On découvre une évidence. Et cette évidence, c'est qu'il n'y a pas de contre-exemple en fait à ça. C'est que un classique, c'est un texte qui est toujours réécrit. Il n'y a pas de contre-exemple. C'est-à-dire que si un texte n'est pas réécrit, n'est pas traduit, n'est pas approprié, il ne peut pas accéder au statut de classique. Voilà, il peut exister quelque part, mais il ne peut pas accéder au statut de classique. Donc la question n'est pas est-ce qu'on doit être pour ou contre les réécritures. La question, c'est d'avoir les outils critique pour évaluer éventuellement ces réécritures, hein, en considérant si elles sont intéressantes ou non, valables ou non, mais surtout en essayant de comprendre qu'est-ce qui les a motivées. C'est assez amusant aussi de voir que ce qui motive beaucoup les réécritures au XVIIIe siècle, c'est par exemple la hantise de la sexualité. Donc on va... Et c'est pas simplement pour les enfants qu'on a peur de la sexualité, on en a peur aussi pour les adultes. Et donc les traductions des textes étrangers, mais même des textes antiques, hein, vous avez des textes antiques qui sont très très crus, très 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 sexuels, hein, et bien ils sont traduits de manière à évacuer tout cela dans beaucoup des langues européennes notamment.
Parce que ce que vous soulignez, c'est qu'effectivement, cette enquête et ce que vous manifestez aussi, c'est que la question finale, c'est celle du... Enfin, pas la question finale, mais la question, c'est celle du rapport des œuvres au temps. Et vous dites deux choses très importantes. Vous dites « aucun oubli n'est définitif ». Donc, retournant un peu ce qu'on pourrait penser, que finalement, il y a toujours un moment où, dans la dialectique de la mémoire, les choses finissent par réapparaître. Et l'autre chose très importante que vous évoquez, c'est de dire finalement le classique, c'est pas une œuvre qui est intemporelle, c'est une œuvre qui est de tous les temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire en fait, c'est une œuvre qui n'en finit plus de se réinventer ou d'être réinventée, parce que je pense que la dimension active est importante, au travers des temps dans lesquels elle vit, et qu'à partir du moment où elle n'est plus réinventée, elle cesse de vivre.
Oui, à partir du moment où elle n'est plus réinventée, elle cesse de vivre. C'est-à-dire que la culture, les cultures, les époques font ou non usage du passé. Et c'est intéressant aussi à travers l'exemple des textes littéraires, mais je prends aussi des exemples emprunté un petit peu à la peinture, et on pourrait aussi en prendre à l'architecture. Voilà, chaque culture fait un certain usage du passé. Qu'est-ce que ça veut dire faire un usage du passé? Ça veut dire mettre en lumière ce qui va aider cette culture à se constituer, ou la communauté à se souder. Enfin, on peut regarder ça de plusieurs manières différentes. Des références qui vont être considérées comme valables à cette époque, partageables. Et en mettant en lumière un certain nombre d'aspects du passé, va en laisser d'autres dans l'ombre. Mais ce mouvement d'ombre et de lumière, il va varier. Il va varier d'une époque à l'autre. Et donc, vous pouvez avoir des textes qui vont être placés dans l'ombre à un certain moment, et puis, tout d'un coup, reprendre une actualité à une autre époque. Donc, le mouvement, c'est celle, le mouvement de vie et de survie, il est mieux compréhensible par cette métaphore de l'ombre et de la lumière, qui aussi illustre bien la dialectique de la mémoire et de l'oubli, enfin du souvenir.
Oui, et qui suppose aussi un certain rapport, enfin un certain état de la société dans lequel l'œuvre va apparaître. C'est-à-dire que vous prenez dans le livre à un moment un exemple de Vermeer, mais Vermeer, c'est important aussi, parce que Vermeer ne devient important dans la réception de l'histoire de la peinture que très tardivement, si on prend le cas français au tournant 19e, 20e, parce que c'est aussi le moment où il y a une certaine société pour recevoir l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi des œuvres qui ne deviennent importantes qu'à un moment où la société est capable de les recevoir.
Oui, absolument. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont des œuvres qui sont en avance sur leur temps? Bon, c'est sans doute un peu une illusion de penser que c'est cela, mais sans doute aussi un peu, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui s'arrachent souvent à leur propre temps. Ce qui est frappant avec des classiques comme Victor Hugo ou d'autres, c'est que... ils sont réaménagés selon les époques, mais enfin, ils parviennent à être presque tout le temps dans la lumière. Et ça, c'est,
oui,
c'est surprenant. Parce que c'est des œuvres sans doute suffisamment plurielles pour pouvoir être restées actuelles ou actualisables par différentes époques.
Alors, il y a une autre dimension qui est très importante, et là aussi, vous essayez d'être un peu à front renversé par rapport à ce qu'on peut penser spontanément, c'est la question de la censure. Au sens où, dans le débat, on va dire, dans son niveau le plus pauvre médiatique, l'idée, c'est réécriture égale censure, on nous empêche d'accéder à l'état réel du texte, enfin, toute idée que vous avez démontée depuis le début. Et vous dites, en fait, là aussi, la dialectique du rapport à la censure, elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'on peut imaginer. On n'est pas du tout dans une position A ou B, dans lequel liberté intégrale, censure intégrale.
C'est ça, c'est-à-dire que de la même manière que je pose qu'on ne peut pas être pour ou contre la réécriture, de la même manière, c'est très vertueux d'être contre la censure. Hein. Moi, je suis comme vous, j'ai envie de dire que je suis contre la censure. Mais la vérité historique, c'est qu'à partir du moment où il y a expression, communication, il y a de la censure. On pratique soi-même l'autocensure dans certaines circonstances, on contrôle son langage, etc. Bon, voilà. Et donc, ça joue à différentes échelles, c'est ce qu'il faut évaluer, c'est avoir les instruments critiques pour savoir quand une censure est destructrice et problématique, et puis quand une censure est anodine, voire bien intentionnée. Hein, parce qu'il y a une grande différence entre, par exemple, brûler les livres de tous les auteurs juifs sur une place de Berlin en 1935, et puis désherber ordinairement en bibliothèque certains livres qu'on considère comme obsolètes parce qu'il faut faire la place à d'autres. Ce ne sont pas les mêmes gestes. Et historiciser toutes ces questions, avoir des outils critiques pour essayer de comprendre que c'est pas les mêmes gestes, je pense que c'est très important. Et ça évite qu'on soit dans un débat hyper polarisé où on dit chaque réécriture, c'est une censure ou une falsification de l'histoire. Non. Tout ce que je montre ici, en fait, c'est très rarement des falsifications de l'histoire. D'abord, les réécritures ne font que faire vivre l'original. Jamais une réécriture n'a fait disparaître un original. Il y en a pas. Enfin, il est toujours là. Et en général, c'est parce qu'on a eu accès. On l'a bien vu avec le film Monte Cristo. Hein. Gallimard s'est beaucoup vanté d'avoir vendu des milliers d'exemplaires de Monte Cristo de Dumas suite au film qui est sorti il y a, je crois, à peu près 2 ans. Il est certain que je dirais pas que toutes les personnes qui ont vu la comédie musicale des Misérables a lu Les Misérables par la suite, mais la comédie musicale a forcément aussi conduit des personnes à lire le texte sous une forme ou sous une autre. Voilà, il s'agit pas d'un côté de dire que la réécriture c'est nécessairement une falsification, et puis de l'autre dire que il y a que qu'il faut tout réécrire. C'est pas du tout mon point de vue. Moi, je constate juste et je montre que factuellement, ça n'a aucun sens d'être pour ou contre. Donc, il faut réfléchir aux motivations qui font que certaines réécritures aujourd'hui obéissent à un certain programme idéologique. Qu'est-ce que signifie ce programme ? Est-ce qu'il est forcément condamnable ? Est-ce qu'il abîme forcément le texte? Je prends un exemple qui m'a beaucoup frappé parce que là aussi il montre comment le débat est faussé. Vous vous souvenez peut-être, parce que ça a fait un petit battage médiatique, hein, je reviens aussi sur les battages médiatiques qui ont été faits autour de certaines réécritures, que il y a depuis quelques années, le ministère de l'Éducation a décidé d'offrir à la fin du primaire un livre aux enfants. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, ce livre, c'était La Belle et la Bête, illustré par Jules, le dessinateur, l'artiste Jules. Et puis, alors que le livre était fini et même imprimé à 800 000 exemplaires, le même ministère a décidé que ce livre ne serait pas offert aux enfants parce qu'il nécessitait un accompagnement pédagogique hein, qui ne pouvait pas être donné comme ça aux enfants. Et alors, que faisait le livre ? Il était présenté. Hein, je suis allée voir les articles de journaux et les émissions de radio qui sont sorties à ce moment-là, comme une réécriture de La Belle et la Bête, placée dans le monde d'aujourd'hui, dans un milieu donc de migration algérienne. Donc, il était présenté comme une réécriture. Et en regardant vraiment lettre à lettre, ligne à ligne, le texte de Madame le Prince de Beaumont et le texte proposé pour cette édition, il n'y avait pas un mot de changé. C'est exactement le même texte. Alors, évidemment, les illustrations actualisaient ce texte, mais ce texte était néanmoins le même. Donc, est-ce que littéralement, on peut parler de réécriture ? Je ne suis pas sûre. C'était exactement le même texte. Et bizarrement, il résonnait avec les images de manière extrêmement forte. Mais comme le texte de Madame le Prince de Beaumont, qui est d'ailleurs plus transformé dans le film de Cocteau avec Jean Marais, mais comme voilà, ce texte peut résonner avec Jean Marais déguisé en monstre, etc. C'est-à-dire que c'était pas plus une adaptation que les films... et moins une adaptation que la version Disney du même conte. Donc voilà, il faut vraiment regarder de près et se dire c'est aussi le destin de ce type de texte que de connaître ces métamorphoses.
Oui, après, le problème qui se posait dans ce cas-là, c'est aussi la représentation que se fait l'institution comme autorité. Que c'est aussi un sujet que vous abordez dans le livre, c'est-à-dire que la position d'autorité, légitimation, fait que l'institution ne se considère pas comme devant être le relais d'une adaptation, mais au contraire, dans une vision un peu fantasmatique de la transmission du vrai texte et du vrai livre. Et...
Oui, mais là, le texte, c'est le vrai.
Tout à fait.
Alors, est-ce que une illustration conventionnelle avec un château qui a tant de tours et un roi barbu est plus fidèle que la petite fille d'aujourd'hui qui rêve aussi d'un rappeur comme Prince Charmant, etc. C'est aussi une représentation, en fait, le château. C'est aussi une traduction. L'imagerie que l'on associe à La Belle et la Bête, qui est liée aux représentations que nous nous sommes faites grâce au film, ou aux dessins animés, ou aux autres illustrations plus anciennes, c'est aussi une traduction. C'est aussi une traduction visuelle d'un texte qui, lui, peut connaître d'autres développements.
Simplement, pour finir, vous évoquez au début de votre texte, vous dites que le risque de l'effacement ou de l'annulation peut venir paradoxalement plus du trop-plein et de la surabondance que du manque. C'est-à-dire que plutôt que de craindre que les bibliothèques soient vidées, un très beau passage tout à la fin du livre sur le fantasme de la bibliothèque qui disparaît, en fait, c'est finalement la surabondance indifférenciée de textes et d'œuvres qui a plus de chances de produire un effacement que la disparition des textes eux-mêmes.
Effectivement, je pense pas que toutes les réécritures soient nécessaires, utiles, etc. On voit que dans certains cas, elles sont faites dans des visées purement commerciales, assez anecdotiques, mais elles peuvent avoir aussi une fonction à certains moments. C'est vrai que l'idée que certaines réécritures peuvent être plus inclusives, représenter plus de monde, ça pose quand même une question de savoir quel usage on fait de la littérature. C'est-à-dire que la littérature, est-ce qu'on veut encore que ça soit une référence partagée, partageable ? Pour ça, il faut bien aussi que ces représentations s'adaptent un tout petit peu à la représentativité de la société d'aujourd'hui. On ne peut pas laisser tout le temps dans l'ombre et dans la domination quantité de peuples et de groupes humains. C'est normal. Alors on peut produire de nouveaux récits, et c'est bien d'en faire, mais enfin on voit qu'on n'a pas une capacité infinie de production de nouveaux récits. C'est toujours un peu les mêmes récits qui reviennent. Et quand on voit ça sur la longue durée, on voit que toujours, lorsqu'il y a, par exemple, faire des éditions pour enfants, ça commence au moment où on essaye de penser une éducation collective. En fait, plus l'éducation se démocratise, plus on cherche à produire des textes qui peuvent constituer du commun. C'est aussi la réflexion de l'inclusion. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi d'avoir pris Les Misérables de Victor Hugo. C'est aussi à cause de son titre. C'est une œuvre qui fait rentrer dans la littérature un peuple qui ne s'y trouvait pas auparavant, et aussi sa langue, et aussi son langage. Et donc, cette dimension-là, elle existe aussi. Après, je me suis rendu compte que peut-être que si les débats étaient aussi aigus et crispés actuellement, c'était précisément parce que la littérature n'était plus vraiment importante dans notre culture et dans nos cultures. Et donc, à partir du moment où elle est plus déterminante, on n'en fait plus tellement usage, et donc on a tendance à muséifier ce dont on ne fait plus usage. Et si on muséifie, alors forcément on laisse dans un certain état que certains vont appeler l'original, d'autres la vraie version, d'autres le vrai texte, le texte de l'auteur, etc. Mais le point le plus important, peut-être à retenir, un point peut-être un peu mélancolique aussi, c'est que ça témoigne plutôt d'une sorte d'éloignement de la littérature et de sa vertu cohésive que de son rapprochement. On pourrait se dire, tiens, le débat, il a le mérite de mettre un peu la littérature dans le grand public. Mais en fait, non, je pense que c'est au contraire parce que
c'est un symptôme.
Elle s'éloigne qu'on a tendance à vouloir la muséifier.
En tout cas, merci beaucoup, Tiffaine Samoy, de cet appel à justement une littérature, une lecture vivante, et elle n'est pas muséifiée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.